Radio Pleine Lune 101.4, notre dossier ce soir avec Liliane et Rosa, deux femmes venues de l'Uruguay qui sont actuellement à Genève. Alors Liliane, qu'est-ce qui t'a amenée de l'Uruguay à Genève?
Bon, je suis ici pour participer avec le programme de change organisé par le groupe de femmes ISIS. Et que je crois qu'il y avait des femmes ici qui ont parlé avec ce échange. Bon, dans un moment, je travaille avec le dispensaire de femmes pendant 3 mois parce que je représente ici un groupe de femmes uruguayennes qui s'appelle Maria Bella et que nous sommes en train de faire une chose semblable à le dispensaire, mais en Uruguay, dans un quartier populaire de Montevideo.
Vous êtes en train d'organiser une clinique de femmes donc à Montevideo.
Oui, une clinique de femmes comme le dispensaire, mais pas assez organisée comme le dispensaire parce qu'on n'a pas d'expérience en ce champ. On veut surtout parler avec la sexualité de la femme et connaître notre corps et pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre corps. Parce que dans le pays d'Amérique latine, c'est difficile de pouvoir dominer notre corps.
Pourquoi Maria Vieira? Pourquoi ce nom?
Maria Bella, parce que Maria Bella a été la première féministe uruguayenne en Argentine. Elle a fait au début du siècle une 17 points pour renforcer la situation de la femme dans ces sociétés comme l'Argentine et comme l'Uruguayenne. C'est pour ça qu'on a mis ce nom de Maria Abeja.
Alors ici, en tout cas moi je connais très très peu la situation du féminisme et des femmes en Uruguay. Alors peut-être que tu pourrais présenter un peu... Est-ce qu'il y a un mouvement des femmes en Uruguay? Comment il s'est structuré? Est-ce qu'il existe depuis longtemps? Est-ce qu'il a existé avant, sous la dictature? D'où est venu ce mouvement des femmes?
Bon, il y avait un mouvement de femmes au principe du siècle, mais que surtout ce sont des femmes d'un féminisme libéral, on dirait, parce qu'elles se sont préoccupées surtout par la loi de la femme. Depuis en 1916, il a créé un conseil national de femmes et que a suivi jusqu'à ce temps. Mais surtout, depuis de 1983, on a un mouvement de femmes plus renforcé avec la création de beaucoup de groupes qui sont préoccupés surtout par la situation économique et politique d'Uruguay, parce qu'on a sorti d'une dictature militaire depuis 10 ans. Et cette année, c'est la première année de vie démocratique après ces 10 ans de dictature. Et en 1983, il y avait une politique chez les maisons, et surtout dans l'ambit privé. Et c'était dans cet ambit que la femme, c'est la reine, on dit, de cet ambit. Et après de ça, les groupes se sont renforcés plus en plus et ont commencé à discuter sur la situation de la femme dans les différents niveaux. Et en ce moment, nous sommes en train de créer des différents, comment est-ce qu'on peut dire, de différents papiers, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, avec la concertation des femmes, qui a été une réunion de l'année dernière, qu'on a fait des différents analyse sur la situation de la femme au travail, avec la santé, avec l'éducation, avec les moyens de communication. Et la santé a sorti comme un des problèmes les plus graves de la femme, parce que c'est la manière de domination des corps des femmes et la manière comme les femmes sont unies à le moyen traditionnel de santé. Mais les femmes ne s'appellent pas féministes en Uruguay parce qu'il y a un certain tabou autour de le mot féminisme. Surtout, elles s'appellent mouvement féminine. Il y a un peu seulement de groupes qui s'appellent féministes. Nous avons créé un journal, que je te l'ai donné, qui s'appelle Quotidiano Mujer, c'est Quotidienne Femme. Et que c'est le premier journal féministe qui a sorti à Montevideo.
C'est un quotidien ou...
Non, c'est mensuel, mais on l'a appelé quotidien parce que c'est le problème quotidien de la femme tous les jours. C'est pour ça qu'il s'appelle quotidien.
Est-ce que ces groupes femmes excuse-moi, d'Uruguay ont suivi un peu la même dynamique qui a existé en Europe, c'est-à-dire est-ce que vous êtes sorti, est-ce que vous êtes issu des groupes de gauche, est-ce que vous êtes issu des partis de gauche qui ont mené une lutte pendant ces 10 ans ou plus?
Oui, la plupart d'elles, oui. La plupart d'elles, les appelés féminisme sont sortis du parti de gauche. Pas de parti, parce que pendant 10 ans, il n'y avait pas de parti, mais surtout des idéologies de gauche. Mais il y a aussi des femmes formant des groupes qui ne sont pas de gauche, sont, je peux dire, des droites, de partis traditionnels, que surtout elles veulent plus de représentation des femmes dans les élections et dans la directive du parti politique.
Mais sur quelle base ces femmes qui sont sorties des groupes, enfin plutôt des idéologies de gauche, elles sont sorties sur quelle base? Est-ce que c'était sur une critique de ces groupes de gauche ou est-ce que c'était sur un désir d'investir, de faire de la politique avec des femmes?
Il y a de tout. Il y a des personnes qui ont refusé les critères de partis politiques de s'enfronter à la situation de la femme. Il y en a des autres qui ont rentré à Montevideo après l'exil et qui sont en Europe, qui sont contactés avec le groupe féministe. Et quand elles sont rentrées à Montevideo, elles ont le besoin de former quelque chose semblable à Montevideo. Alors il y en a de tout. Même il y a des femmes qui ont une double militance, on dit, qui participent dans les groupes féministes et aussi dans les partis politiques. Mais surtout, on veut profondeur la situation de la femme en Uruguay parce que on a un type de patriarcalisme très subtil, si on veut. C'est pas une situation très dure comme dans Centro-Amérique, Amérique du Centre central, parce que on a toute une législation qui est très protectrice, on dit, de la femme. Mais dans la vie quotidienne, tu vois que c'est la même chose, n'est-ce pas? Alors, il faut parler beaucoup avec ça, parce qu'il y a des femmes qui disent, mais je ne suis pas discriminée, je n'ai pas de problème avec mes situations de femme. Mais quand on est en train de parler, il commence à sortir les difficultés, les problèmes quotidiens, la situation de domination, la vie toujours autour de son mari, de son fils, l'impossibilité de pouvoir étudier, de pouvoir travailler, de pouvoir tenir une situation indépendante. Mais ça sort après une discussion, pas au premier moment, on dit.
Dis donc, dans la dernière élection, il y a aussi le parti de gauche représenté maintenant dans le gouvernement, non? Alors, je voudrais savoir combien de femmes il y a dans les structures politiques, dans les parlements, dans les chambres des députés, etc.
Aucune. Il n'y a aucune femme dans le Parlement, il n'y a aucune femme dans la Caméra des députés et aucune femme dans la Caméra des sénateurs.
Mais bon, voilà, avant la dictature, il y avait des femmes quand même.
Oui.
Et comment tu t'expliques ça? Maintenant, il y a un mouvement des femmes. Hein? Il n'y a pas de femmes dans le gouvernement.
Oui, ça a été une grande discussion à Montevideo et quand même dans le groupe de femmes. Parce qu'on a discuté si les femmes qui pouvaient entrer dans le Parlement, ils avaient un discours féministe, ou seulement elles reproduisaient les structures machistes qu'on appelle. Quand même, il y avait une sorte de soupir pendant les vacances à quelques députés, des femmes dans le Parlement. Et elles ont travaillé avec le document qu'on a fait dans la concertation et elles en ont proposé de changer dans la législation uruguayenne. Mais c'est un problème parce que c'est un problème et c'est une manière de pouvoir réfuter les personnes qui disent qu'en Uruguay, il n'y a pas de discrimination. Parce que c'est le meilleur exemple qu'on a pour dire qu'en Uruguay, les femmes sont discriminées parce qu'il n'y avait une dans le Parlement.
Tu vois, moi, je ne crois pas à ces sortes de pouvoirs, non? La représentation au Parlement, etc. Mais c'est quand même contradictoire qu'il existe toute la gauche représentée, une organisation des femmes dans chaque parti politique de gauche, et même des droits, comme tu viens de dire, le Partido Blanco, le Partido Colorado, etc. Mais qu'il n'y a pas une seule femme qui soit dans la représentation au pouvoir, hein?
Même quand il y a beaucoup de femmes dans la base de chacune de leurs partis politiques. En avant de les élections nationales l'année dernière, il y avait une manifestation seulement des femmes du parti de gauche. Et nous avons eu 100 000 femmes dans la rue.
100 000.
100 000 femmes dans la rue. Et il n'y avait une dans la représentation parlementaire. Ça a été fou, vraiment. Même dans la direction de différents partis, il n'y a personne, il n'y a de femmes, seulement une, et que c'était la femme que tu disais qu'il y avait dans le Parlement avant la dictature, que c'était Alba Robajo.
Mais il n'est pas la seule.
Oui, c'est l'unique qui a dans la représentation de Frente Amplio, la union de partis de gauche. C'est l'unique.
Radio Pleine Lune, 101.4 MHz. Nous continuons notre discussion avec Liliane et Rosa sur le féminisme en Uruguay. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 40 51 41. Et maintenant, avant de nous atteindre, il faut encore faire le 023 50 depuis la Suisse. Liliane, tu as, quand on parle d'Uruguay, on pense beaucoup à la dictature. 10 ans de dictature, tu en as parlé. Est-ce que les femmes ont été actives pendant ces 10 ans?
Je crois que les femmes ont été les plus actives en réorganisant l'opposition de la dictature. Parce que, comme on a parlé, dans le cadre domestique, la femme a été la qui a donné la plus de force à tout le mouvement de réorganisation fondamentalement de le parti de gauche. Dans la maison, on a pu reconstruire les anciens comités de base du Frente Amplio. Quel Frente Amplio? C'est l'ensemble de tous les partis de gauche. Alors, c'est la femme qui...
Y compris la démocratie chrétienne.
Aussi, la démocratie chrétienne, les partis communistes, les partis socialistes, l'extrême gauche et une gauche très uruguayenne, que c'est une espèce de socialisme uruguayenne. Non? Le 99.
Ah bon.
A été la femme la première à en sortir à la rue pour manifester sur la condition économique qu'on a vécue pendant la dictature. Et a été la femme la première à se réorganiser pour pouvoir obtenir quelque chose pendant la dictature.
Mais comment tu expliques ça? Est-ce que c'est parce que la dictature était tellement dure que tout était empêché, que la maison devenait le seul lieu où on pouvait se retrouver? Et
Oui.
donc c'est autour de la maison, autour des femmes qui sont le personnage central des maisons, que se sont reconstitués des lieux de rencontre?
Oui, on a expliqué un peu avec ces moyens parce que il n'y a pas une autre explication possible. Même avec les familières de personnes disparues et de prisonnières, les femmes ont été les principales organisateurs de ce comité d'appui à les personnes disparues et à les prisonnières. Je crois que c'est une chose semblable à les maires de la Plaza de Mayo d'Argentine. Je ne sais pas si vous connaissez. Et on pense qu'il y a de prolongation, on dit, de la situation traditionnelle de la femme comme l'être mère ou l'être sœur, qui fait que les femmes adoptent ces situations et ces compromis avec différentes luttes. Même la situation économique a tué fondamentalement la maison et le manger, ce qu'on doit vivre, l'alimentation des enfants, l'école. Et c'était la femme la première à dire ça ne pourrait être comme ça. Et ça a été elle là, qui a sorti à la rue à dire non, ça ne peut pas suivre comme ça. Mais tout ça profondissait beaucoup dans la problématique de la femme. L'analyse de la situation de la femme a été plus tard dans cette organisation de femmes. Ça a commencé l'année dernière à concentrer l'information sur les différents mouvements de femmes dans le monde, dans l'Amérique latine, le change des communications, des publications, la connaissance des différentes formes de féminisme qu'il y a. La question sur la nécessité d'avoir de garde d'enfants, d'avoir de lavanderie, on dit, où on
Les
lave
bienderies.
les bienderies. Et aussi le droit dans le travail.
Mais il y a une chose justement qui me frappe. Tu as donné l'exemple de l'Argentine et je pense que c'est un exemple qu'on retrouve dans beaucoup de dictatures d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, que ce sont les femmes qui, dans ces moments de dictature, sont les seules à oser sortir, à oser effectivement montrer leur opposition. Bon, peut-être c'est vrai à travers le fait qu'elles ont perdu un fils, un mari, un frère, un amant, mais ce qu'on voit pas, c'est qu'est-ce qu'elles gagnent après. Que ce soit en Argentine, tu l'as montré en Uruguay, vous avez gagné très peu, même dans des pays comme le Nicaragua, où les femmes ont été très très fortement actives dans l'insurrection, on se dit après, qu'est-ce qu'elles ont dans les mains, qu'est-ce qu'elles ont gagné?
Je crois que ça montre exactement quelle est la lutte de la femme. C'est pas surtout lutter par le père, le mari, l'enfant, sinon c'est surtout lutter pour nous-mêmes. Parce que quand on finit la lutte comme en Nicaragua, on voit que la femme est un peu laissée à côté. Et ce sont les hommes qui adoptent de nouveau les décisions, les directrices de tout le mouvement. Et je crois que c'est dans ce moment qu'on doit penser qu'est-ce qui se passe avec la femme et pourquoi ces situations. Je crois que la même chose a passé à Montevideo avec le travail. Quand il y a besoin de main-d'œuvre très barrée, je ne sais pas comment on dit, très mal payée, c'est quand les femmes entrent en travail. Et quand il y a un problème de désoccupation, ce sont les femmes les premières à sortir du travail. Et pourquoi ça? Je crois que ce sont toutes des questions qu'il faut se questionner, parce que c'est dans ces moments qu'on peut penser dans un mouvement féministe en Uruguay, en Argentine et dans les autres pays où on a eu des dictatures militaires. C'est dur de le proposer à beaucoup de femmes parce qu'elles pensent que la sortie, c'est à travers de partis politiques, parce que le féminisme, c'est un peu radical et qu'il pense surtout aux femmes et ne pense pas aux hommes. Mm. Et c'est dur d'expliquer à différentes femmes que les partis politiques surtout pensent aux hommes et ne pensent pas à femmes. Je crois que c'est une discussion qui doit être faite à Montevideo surtout, et même dans l'intérieur du pays. La situation à Montevideo, c'est un pays qui a 3 millions d'habitants et 1 million et demi habitent à Montevideo. Alors la campagne d'Uruguay, c'est désolé. Les problèmes de la femme sont les mêmes, le problème de la femme de la cité, mais plus grave pour la distance des différentes capitales et plus grave par la situation d'ignorance et de désinformation sur le travail, l'éducation, la santé et même avec le moyen de communication.
Rosa, toi, tu as quitté l'Uruguay il y a...